Il est midi et demi, l'heure du journal de la mi-journée sur Europe 1 avec Fabienne Lemoelle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
Il y a du gel à l'entrée, il y a des gants, il y a des masques pour ceux qui le souhaitent.
Les Français appelés à voter ce matin pour le premier tour des municipales. Premier tour maintenu malgré le passage au stade 3 de l'épidémie de coronavirus. Participation en légère baisse, 18,38% à midi, 5 points de moins qu'il y a 6 ans. Un scrutin qui se déroule dans un contexte totalement inédit avec l'annonce hier soir de la fermeture de tous les commerces non indispensables à la vie du pays. Et ce matin, la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, qui annonce une réduction progressive du trafic des trains, des cars et des avions.
Alors que nous sommes passés au stade 3 de l'épidémie, chacun doit renoncer aux déplacements non essentiels, aux déplacements d'agrément.
Elisabeth Borne qui assure que tout le monde pourra rentrer à son domicile et qu'il n'y aura pas d'arrêt brutal. Autre mesure attendue cet après-midi, la fermeture de toutes les stations de ski à compter de 17h. Nous reviendrons bien sûr sur l'impact de toutes ces mesures pour limiter la propagation du virus avec mon invité Patrick Zilberman, professeur émérite d'histoire de la santé à l'école des hautes études en santé publique. Voilà donc pour cette édition qui sera, vous l'avez compris, entièrement consacrée à cette journée de vote dans ce contexte totalement inédit.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et direction le ministère de l'Intérieur, alors que sont tombés il y a une demi-heure maintenant les premiers chiffres de la participation pour ce premier tour des municipales. On retrouve Place Beauvau, Sophie et Chêne. On se demandait, Sophie, quel impact allait avoir ce contexte, je l'ai dit, totalement inédit de l'épidémie du coronavirus. Les Français allaient-ils se déplacer pour voter? Pour l'instant, on note une légère baisse de la participation.
Oui, un chiffre en net recul à midi, 18,38% des électeurs sont allés voter. C'est donc 5 points de moins qu'en 2014 lors des dernières élections municipales. Il y avait eu 23,16% de participation à la mi-journée. Les électeurs qui continuent de se mobiliser aujourd'hui depuis l'ouverture des bureaux de vote à 8h. Dans le détail, les départements dans lesquels on a le plus voté ce matin. En tête, la Haute-Corse avec 34,51%, suivi du Cantal et de l'Aveyron. En revanche, en bas de classement, on retrouve la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et l'Essonne, un peu plus de 11,5% de participation dans ces trois départements à la mi-journée. Et puis à Paris, eh bien ce sont 12,61% des électeurs qui se sont déplacés, soit un point de moins qu'il y a 6 ans en 2014. Je vous le répète, 18,38% de participation en France métropolitaine à midi. Les Français ont jusqu'à 19h pour se rendre aux urnes et jusqu'à 20h dans les grandes villes.
Sophie Echen, Place Beauvau à Paris, avec donc, on note une légère baisse du taux de participation par rapport à il y a 6 ans, 5 points de moins. Premier tour des municipales maintenu malgré le passage au stade 3 de l'épidémie de coronavirus et donc des règles très strictes dans les bureaux de vote pour éviter toute contamination, ce qui passe entre autres par le lavage des mains à l'entrée et à la sortie des bureaux de vote. Nicolas Feldman, vous vous êtes rendu dans un bureau du 15e arrondissement à Paris. Est-ce que les électeurs respectent les consignes?
Eh bien, pour le savoir, j'ai suivi Annie, un peu moins de 60 ans et à première vue, pas plus que ça, perturbée par le virus. Mais ce matin, pourtant, elle est arrivée à la mairie bien équipée.
Alors, j'ai un mouchoir. J'ai mon stylo. J'ai décidé d'être très civique aujourd'hui jusqu'au bout. Bah, hier soir, je ne voulais pas me voter. Puis ce matin, je me suis réveillée, il faisait beau. Je me suis dit, allez, vas-y.
Et malgré ce grand soleil dans ces trois bureaux de vote, il n'y avait pas foule ce matin. Vers 9h30, j'ai compté seulement une dizaine d'électeurs, tous séparés par des bandes de couleurs scotchées au sol et tous invités à respecter une série de consignes jusqu'à l'isoloir. Sylvie est présidente de l'un des bureaux de vote.
Il y a un espacement de 1 mètre entre chaque électeur. Il y a du gel à l'entrée. Il y a des gants, il y a des masques pour ceux qui le souhaitent. Ils arrivent à la table pour voter, bien vous voyez, j'ai des gants. On évite de toucher les cartes d'identité. Les personnes ont été, je dois dire, assez raisonnables parce que beaucoup viennent avec leur bic. Voilà.
Alors, est-ce que toutes ces mesures suffiront à endiguer l'abstention dans cet arrondissement de Paris? En tout cas, ces derniers jours, au moins trois responsables de bureaux de vote et plusieurs assesseurs ont annulé leur venue.
Nicolas Feldman, on se demandait aussi si les personnes âgées allaient se déplacer pour aller voter, d'autant que le directeur général de la Santé a rappelé encore hier soir qu'il était conseillé aux personnes de plus de 70 ans de rester chez elles. Eh bien, dans le Haut-Rhin, à Colmar, Astrid et Simone tenaient à accomplir leur devoir électoral.
Nous, on n'a peur de rien. On a toujours voté et puis il faut y aller.
Comme dit Madame Pommard, il faut y aller. Il faut prendre le gant, le masque, le truc là pour désinfecter, si jamais.
Mais les gens, ils ne devraient pas avoir peur comme ça. Vous savez, on sort quand même pour faire quelques courses. Alors, c'est comme si on venait faire nos courses ici.
Je vais même téléphoner à mon docteur pour demander si, parce que j'ai un petit peu la goutte au nez. Il m'a rigolé au nez. Il a dit, faites comme d'habitude et après vous rentrez. Voilà.
Allez, à dimanche prochain.
Voilà donc pour ces témoignages recueillis par Marion Gauthier. Le Premier ministre, lui, a voté au Havre vers 8h. Et car ce matin, Édouard Philippe, qui a donc annoncé hier le passage à la phase 3 de l'épidémie. Et nous partons tout de suite au Touquet, où Maximilien Carlier, le président de la République, vient de voter.
Oui, tout à fait. Il vient de voter. Il est arrivé il y a quelques minutes avec son épouse Brigitte Macron. Ils sont arrivés en voiture devant l'hôtel de ville. Quelques familles, quelques retraités. Pas de bain de foule, pas d'accolade, pas de poignée de main non plus, comme le président de la République a l'habitude de faire ici au Touquet. Emmanuel Macron à l'écart un peu des Touquetois, des Touquetoises. Quelques signes de la main seulement, quelques sourires. Le chef de l'État est dans l'hôtel de ville où toutes les dispositions ont été prises sur chacune des tables, du gel hydroalcoolique, des gants, marquage au sol, un isoloir dos au mur pour éviter de toucher le rideau. Ici au Touquet, les votants sont principalement des retraités. Ils se sont déplacés avec, pour la plupart, stylos, cartes d'électeurs, gel et masques pour certains également.
Maximilien Carlier au Touquet pour Europe 1. On le disait donc, Édouard Philippe lui a voté au Havre ce matin. Édouard Philippe qui avait donc annoncé hier le passage à la phase 3 de l'épidémie, tout en expliquant que le premier tour des municipales était maintenu malgré l'appel plus tard dans la soirée de plusieurs présidents de région au report du scrutin, comme Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse. Parmi les mesures les plus marquantes annoncées hier soir par Édouard Philippe, et on y reviendra dans un instant, la fermeture des commerces qui ne sont pas indispensables à la vie du pays. Mais ce matin, on a eu, Carole Ferry, de nouvelles précisions en ce qui concerne les transports, avec notamment une réduction progressive d'une partie du trafic.
Oui, l'idée c'est toujours de limiter la propagation du virus. Alors il n'y aura pas d'arrêt brutal, il faut que les gens puissent rentrer chez eux. Mais les transports de longue distance vont progressivement être réduits. Demain, il y aura 7 trains sur 10 en circulation pour les TGV, TER et Transilien. Dès mardi, le rythme va ralentir. Du côté des avions, quelques vols seront assurés vers les États-Unis, l'Afrique ou l'outre-mer. Tous les rapatriements depuis le Maroc seront assurés. Et là encore, petit à petit, des terminaux seront fermés à partir de mercredi à Orly ou en fin de semaine à Roissy. Pour les transports en commun à l'intérieur des villes, ils seront réduits mais maintenus. Dans tous les cas, la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, appelle chacun à réduire ses déplacements au strict minimum.
Alors que nous sommes passés au stade 3 de l'épidémie, chacun doit renoncer aux déplacements non essentiels, aux déplacements d'agrément et n'avoir recours au transport qu'en cas de nécessité, c'est-à-dire lorsque cela est lié à la santé, au travail ou à l'alimentation.
Alors, le transport de marchandises, en revanche, est maintenu pour assurer l'approvisionnement des magasins d'alimentation. Les stations-service restent également ouvertes. Il n'y aura pas de pénurie de carburant, assure le gouvernement.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Parmi les mesures les plus frappantes hier soir, il y a la fermeture à minuit des bars, des restaurants, des cinémas et de tous les commerces non indispensables à la vie du pays, a dit le Premier ministre. Une décision difficile pour les petits commerces indépendants qui ne vendent pas de produits alimentaires. C'est ce qu'a expliqué Fabrice Palombi, président de la Confédération des commerçants de France.
Il y a une forme d'injustice. Les hyper sont ouverts. Ça veut dire quoi ? Ils vendent des chaussures, donc les gens, s'ils ont une paire de chaussures à acheter, ils ne vont pas aller chez un chausseur, il est fermé. Ou alors ils achètent sur Amazon, sur Internet, ou ils l'achètent dans l'hyper en faisant ses courses. Donc il y a une sorte de dissonance forte. Après, il y a les commerçants qui n'ont pas de salariés. Donc là, on demande à ce que les commerçants qui n'ont pas de salariés soient indemnisés par rapport à leurs chiffres, par rapport à leurs revenus actuels, à hauteur de 84% maintenus, comme pour les salariés, où le gouvernement va payer les salariés qui ne peuvent pas venir travailler. Là, la mesure, elle est claire et nette. 84% du salaire sera assuré par l'État. Et on demande que ce soit la même chose. C'est une des doléances.
Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, qui répondait à Carole Ferry. Donc, hier soir, le Premier ministre a pris la parole pour annoncer le passage au stade 3 avec des mesures encore plus contraignantes, on l'a bien compris, pour freiner la propagation du virus. Une décision prise, Victor Delande, alors que les derniers chiffres montraient une très forte progression du nombre de personnes contaminées en France.
En 72 heures, le nombre de cas a été multiplié par 2. 4500 personnes contaminées dans tout le pays, dont plus de 300 cas graves en réanimation. Cette fois, ça y est, la France a atteint le stade 3 de l'épidémie. Pour essayer d'endiguer la propagation du virus, de nombreuses mesures restrictives sont appliquées. La fermeture de toutes les écoles à partir de demain et désormais les cafés, les restaurants et tous les commerces non indispensables. Le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, a surtout appelé hier soir les Français à une prise de conscience dans leur comportement de tous les jours.
Ce stade 3 est vraiment basé sur un renforcement des mesures barrières. Tout va dépendre du comportement du virus et surtout du respect par les individus et par la collectivité des mesures barrières. Il n'y a à ce jour pas suffisamment de prise de conscience.
Ce qui change surtout au stade 3, c'est la capacité à soutenir au maximum le système hospitalier. Tout le personnel dans les hôpitaux devient mobilisable. Les internes, les jeunes retraités et les autres spécialités vont prêter main forte aux services d'infectiologie et de réanimation. Il va falloir ensuite faire un tri des personnes contaminées. Les cas les plus sévères seront toujours hospitalisés. En revanche, les cas sans gravité seront invités à rester chez eux pour ne pas surcharger les hôpitaux.
Et si la France a décidé de changer de braquet, c'est effectivement parce que des tensions ont commencé à apparaître dans des services hospitaliers et que les autorités ne veulent pas se retrouver avec la même situation qu'en Italie, où certains médecins ont témoigné de choix terribles à faire entre les patients dans les services de réanimation. Le professeur Alexandre Mignon, spécialiste en réanimation à l'hôpital Cochin à Paris, s'est voulu rassurant ce matin sur Europe 1.
Non, nous n'avons pas à faire de choix et je voudrais rassurer les Français à ce sujet. Par contre, ce qui est très important, c'est que si on n'appliquait pas les mesures recommandées aujourd'hui d'un confinement très strict, on risquerait d'avoir un afflux massif de patients et de se retrouver dans la situation de quelques hôpitaux du nord de l'Italie qui ont fait et qui ont été relativement débordés. Il y a des réserves en termes de structure, il y a des réserves en termes de personnel. Énormément de médecins de ville vont jouer un rôle majeur. Nous avons les récemment retraités, les plus jeunes peuvent être aussi utilisés. Et puis enfin, les étudiants en médecine peuvent faire des choses magnifiques. Ils peuvent, par exemple, les étudiants de sage-femme peuvent demain s'occuper des enfants, des personnels soignants. Et là, il y a une mobilisation d'une intelligence collective extraordinaire dans notre pays. Tous les jours, on entend des initiatives et on va y arriver.
Le professeur Alexandre Mignon, spécialiste en réanimation à l'hôpital Cochin à Paris, qui était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Dans quelques instants, nous reviendrons justement sur ce volant de mesures annoncées par le Premier ministre hier soir avec mon invité Patrick Zilberman pour voir quel est l'impact de ces mesures dont le but est évidemment de freiner la propagation du coronavirus. Parmi les autres restrictions, enfin, toutes les stations de ski qui vont être fermé cet après-midi à 17h. Et vous allez l'entendre, à la plaine où les remontées mécaniques sont déjà fermées depuis hier soir, eh bien on s'adapte.
Bah, on a appris ça cette nuit que c'était fermé. Donc, on était déjà arrivé sur place, donc on essaye un peu de prendre le bon côté, on va dire.
Vous comptez rester? Qu'est-ce que vous allez faire?
Bah, c'est ce qu'on est en train de discuter. Là, on a décidé de rester pour aujourd'hui. Et puis en fonction des autres informations qu'on pourra récupérer, on va essayer d'improviser.
On comprend, mais on aurait préféré le savoir avant de venir, quoi.
Quand on est un peu courageux, on monte à pied puis on descend. Et voilà, j'ai essayé de faire ça aussi pour mon fils qui était ici, qui lui était très 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 déçu, il comprend difficilement.
Comment est-ce que vous avez appris la nouvelle?
Alors ce matin au réveil, par la radio.
Comment vous avez réagi?
J'ai pleuré parce que ben voilà, c'est notre petite semaine, un loulou. Mais c'est vrai que pour lui c'est un peu difficile, il ne comprend pas qu'il ne peut pas skier. Ben voilà, ben on va rentrer en Belgique. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment surtout, parce que nous on est venus en train, donc je ne sais pas comment on va rentrer.
Voilà les témoignages de vacanciers qui profitent de cette dernière journée de ski à la Plagne avec Corinne Boulou.
Le journal des sports.
Avec Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Fabienne.
Le sport à l'arrêt ou presque, mais les propos du président de Lyon qui alimentent la polémique.
Jean-Michel Aulas propose d'annuler le championnat et de repartir sur les bases du début de la saison, ce qui offrirait de facto à son club une qualification en Ligue des Champions. Colère et indignation des autres dirigeants. Dans le journal du dimanche ce matin, Jacques-Henri Hérault, le patron de l'Olympique de Marseille, fustige le comportement de Jean-Michel Aulas. Nous tenons notre leader Maxime, écrit-il, tout en stigmatisant son égoïsme. De son côté, le directeur général exécutif de la Ligue, Didier Quillot, a estimé sur Europe 1 que les propos du président Aulas n'engageaient que lui-même.
Michel Aulas, il a fait une déclaration qu'il engage que lui-même. L'objectif, c'est de conduire le championnat à son terme. Si on n'y arrive pas, la commission des compétitions fera des recommandations et puis ensuite, on fera décider par le conseil d'administration la solution à retenir. À ce stade, aujourd'hui, On n'en est pas là, on n'en est pas du tout là, et le reste viendra lorsque ce sera le moment, ou ne viendra peut-être jamais, si on amène le championnat au bout.
Didier Quilloux, invité de l'émission Europe 1 Sport hier soir, on rappelle qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Le coronavirus qui continue de frapper le sport américain, un troisième cas détecté en NBA, le championnat de basket, après Rudy Gobert et Donovan Mitchell, Christian Wood, joueur des Pistons de Détroit, a été déclaré positif et placé à l'isolement.
Et puis elle était favorite, Nathalie Péchala est donc la nouvelle présidente de la Fédération française des sports de glace.
Elle succède à Didier Gayaguet, président démissionnaire, rattrapé par les révélations sur les violences sexuelles commises au sein de la Fédération. À 36 ans, l'ancienne patineuse prend les commandes d'une institution fragilisée. Nathalie Péchala en a conscience, raison de plus pour ne pas se lancer dans une chasse aux sorcières.
On ne fait pas n'importe quoi à n'importe quand. Je ne souhaite pas couper les têtes de tout le monde. À l'intérieur de cette fédération, il y a des compétences, il y a des projets qui méritent d'être gardés. L'idée, c'est d'avancer, c'est de construire un projet commun. Et ce n'est pas forcément de couper toutes les têtes, de mettre des coups de pied dans tous les sens. Je pense qu'il faut le faire de manière posée, en ayant surtout tous les éléments en main et prendre le temps de les analyser.
La nouvelle présidente de la Fédération française des sports de glace, Nathalie Péchala, elle devient la deuxième femme à prendre la direction d'une fédération olympique après Isabelle Lamour, qui est à la tête de la Fédération française d'escrime.
Merci beaucoup Christophe Lamar. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce dimanche avec des nuages de plus en plus nombreux dans le nord et dans le sud-ouest, Valérie Darmon.
Absolument Fabienne, et de petites pluies fines qui sont annoncées depuis ce matin par Météo France et qui vous touchent des pays de la Loire à la Manche, avec un vent de sud-ouest en rafale voisine de 60 à 70 km/h sur les côtes et dans le sud-est, le ciel qui est plus variable aussi avec quelques averses sur les Cévennes en attendant une véritable dégradation ce soir, c'est surtout la nuit prochaine ainsi que demain matin dans le sud-ouest avec des pluies assez soutenues sur le Pays Basque qui vont remonter dans la nuit jusqu'en Gironde en perdant d'ailleurs de leur intensité et de très grosses chutes de neige sur les Pyrénées. Les températures, elles sont presque printanières avec des valeurs cet après-midi entre 11 à Brest et 21 à Mont-de-Marsan puisque l'essentiel du pays est tout de même sous le soleil. 18 à Biarritz, à Lyon, Chambéry et Limoges, 16 degrés à Paris et à Strasbourg.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Dans un instant, on revient sur les dernières mesures annoncées hier soir par le Premier ministre Édouard Philippe. Nous serons en ligne avec Patrick Zilberman, professeur émérite d'histoire de santé à l'École des hautes études en santé publique.
Europe 1 midi 49, le journal de la mi-journée se poursuit avec votre invité Fabienne Lemoyle.
Et on l'a vu, c'est donc dans un contexte totalement inédit que se déroule ce premier tour des élections municipales, alors qu'hier soir, Édouard Philippe a officialisé le passage au stade 3 de l'épidémie de coronavirus, avec des mesures encore plus contraignantes, comme la fermeture des cafés, des restaurants, mais aussi en lançant un appel aux Français à être plus disciplinés. Bonjour Patrick Zilberman.
Bonjour.
Professeur émérite d'histoire de la santé à l'École des hautes études en santé publique, ancien membre du Haut Conseil de santé publique, vous qui scrutez depuis des années les pandémies, comment qualifiez-vous celle que nous vivons actuellement ?
C'est certainement une crise majeure, ça ne fait aucun doute. Je ne sais pas si c'est la crise la plus terrible depuis un siècle, mais en tout cas c'est effectivement une crise majeure. On pourrait comparer, si vous voulez, à d'autres crises qui ont été aussi très dommageables pour la population en France et dans le monde. Les pandémies grippales du XXe siècle, non seulement celle de 1918, mais celle de 1957, la grippe asiatique, et celle de 1968-70, la grippe de Hong Kong. Mais on s'aperçoit que malgré le nombre de décès est beaucoup plus important lors de ces pandémies, en fait, le taux de mortalité était très inférieur à ce qu'il est aujourd'hui.
Qu'est-ce qui vous inquiète justement et vous étonne dans cette pandémie que nous vivons ?
Alors moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est bien évidemment la circulation du virus, parce que personne n'est capable de prévoir exactement quel sera son comportement dans les mois à venir. Est-ce que, comme le SRAS, il va se contenter de disparaître au mois de juillet, ou bien est-ce que ça ne sera que la première manche d'un match comme la grippe de 1918? J'en sais rien et personne ne le sait exactement. Moi, ce qui m'inquiète surtout aujourd'hui, c'est les comportements humains, en fait, que ce soit ceux des institutions, comme par exemple celle de l'OMS, et puis ceux de la population, effectivement, qui sont quand même un point d'interrogation.
C'est-à-dire ?
Eh bien, si vous voulez, tant en Italie qu'en France, les mesures instaurées par les gouvernements se résument en un mot, c'est un appel au civisme. Alors, le problème, c'est que le civisme, si vous voulez, c'est pas notre spécialité en France, ni en Italie d'ailleurs. Mais on peut avoir des surprises. On voit par exemple que les Italiens ont réagi assez calmement finalement à une situation extrêmement pénible. Donc on pense, on ne voit pas pourquoi les Français ne pourraient pas suivre exactement le même chemin.
C'est-à-dire que, Patrick Zilberman, vous nous dites que les mesures de plus en plus contraignantes avec depuis hier soir minuit la fermeture de tous les bars, restaurants, cinémas et commerces non indispensables à la vie du pays, a dit le Premier ministre, c'était forcément inéluctable.
Ben, à partir d'un certain moment, si vous voulez, il faut voir que nous n'avons ni vaccin, ni médicaments, ni thérapeutique préventive, ni thérapeutique curative. Donc il n'y a qu'un seul type de mesure, enfin il y a un catalogue si vous voulez, mais une seule grande catégorie, c'est la distanciation sociale, c'est-à-dire le fait de ne plus se fréquenter les uns les autres pendant un moment.
Comment on concilie justement ce qui est apparu pour certains contradictoire ? Vous parlez de distanciation sociale, c'est-à-dire qu'en clair, le directeur général de la Santé et le Premier ministre disaient hier soir qu'il ne faut prendre les transports en commun que pour aller travailler, encore si on ne peut pas télétravailler. Il faut éviter les réunions de famille, ne plus recevoir des amis. En revanche, dans le même temps, on peut aller voter aujourd'hui.
Oui, il y a apparemment une contradiction, on peut appeler ça une mobilisation civique sous divers aspects, mais il y a effectivement une contradiction. Le choix de maintenir les élections municipales aujourd'hui a été un choix politique, j'imagine, et ça dépasse largement là le problème de la mobilisation civique pour limiter la circulation du virus.
Pourquoi cette pandémie suscite autant d'inquiétudes alors qu'hier soir, le directeur général de la Santé rappelait aussi que 98% des personnes infectées guérissent?
Oui, mais l'opinion est divisée en deux, comme d'habitude, si vous voulez. Il y a d'une part ceux qui étaient dans le déni, en disant « mais non, c'est une grippette, c'est rien du tout », et puis ceux qui, au contraire, tremblaient de peur à l'avance. L'opinion est divisée entre ces deux catégories, et pas simplement sur l'histoire de pandémie. Nous allons voir dans les prochains jours comment évolue cette opinion, si véritablement l'appel au civisme a été entendu, ou s'il ne l'a pas été.
Justement, le Premier ministre a dit hier soir que nous devions tous montrer plus de discipline. Quel moteur, selon vous, peut inciter les Français à respecter ces règles pour se protéger et protéger les autres ?
Alors, je crois qu'il y en a deux, si vous voulez. Il y a ce qu'on peut appeler, le mot est trop fort à mon avis, mais on peut appeler la peur, si vous voulez. Les gens ont peur, donc ça peut les encourager, effectivement, à observer une bonne observation, si vous voulez, des mesures décidées par le gouvernement et décidées par la Direction générale de la Santé. Et puis d'autre part, je pense que le calme dont font preuve les dirigeants peut être effectivement un encouragement à l'observation des mesures demandées.
C'est quoi les mesures les plus efficaces dans celles qu'on nous demande de respecter ?
Les mesures les plus efficaces, c'est effectivement se calfeutrer au fond de son appartement. Alors le problème, c'est le facteur temps. Pendant combien de temps est-ce que les uns et les autres, nous sommes capables de rester justement à la maison sans en bouger ? On va le savoir dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Mais c'est largement la mesure la plus efficace, avec évidemment la mobilisation du système de soins qui a besoin précisément de cette observation par la population des mesures de distanciation sociale pour éviter l'afflux de patients à la porte des hôpitaux.
Patrick Zilberman, je rappelle, professeur émérite d'histoire de la santé à l'école des hautes études en santé publique. Autre question, on n'est plus que jamais, on le voit, à l'heure de la mondialisation et pourtant il n'y a pas de gouvernance mondiale en matière de santé, même si, vous le rappeliez, il existe l'Organisation mondiale de la santé. Du coup, chaque État garde la main sur ce qu'il décide. Est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème ? Certains ferment leurs frontières, d'autres ferment leur commerce, mais pas au même rythme.
Oui, vous avez parfaitement raison, c'est un problème, c'est même un problème qui est sans doute plus durable que la pandémie elle-même, dans la mesure où on est en train là de démembrer, de démantibuler l'Union européenne à cause de réactions assez stupides de certains gouvernements qui ferment les frontières, en fait, parce que leur système de soins n'est pas capable de prendre en charge les difficultés présentes. Hein. C'est une façon de fuir le problème, de fermer les frontières, si vous voulez. En ce qui concerne le niveau international, l'OMS a sans doute été un petit peu faiblarde dans la conduite de sa gouvernance internationale. Normalement, si vous voulez, l'OMS est là pour donner la direction technique des opérations. Or, on s'aperçoit que très peu a été fait en ce sens, que Genève a laissé les États se débrouiller, ce qui n'est pas dans sa mission. Alors, dernièrement, il y a un petit changement quand même qui n'a pas été noté. Lorsque l'OMS a déclaré l'état de pandémie, elle a fait observer aussi que il fallait réagir contre l'inaction. Alors bien évidemment, elle n'a pas cité, si vous voulez, une liste d'États qui étaient plongés dans l'inaction, mais tout le monde a compris qu'elle faisait allusion aux États-Unis. Et donc, on peut espérer qu'aujourd'hui, l'OMS réagisse et parle un peu d'une voix un tout petit peu plus autorisée, et je dirais même autoritaire, et ce ne serait pas une mauvaise chose.
Merci beaucoup Patrick Zilberman d'avoir été avec nous ce midi pour échanger justement sur cette pandémie que nous vivons actuellement. Et alors que la France vient de passer au stade 3, je rappelle professeur émérite d'histoire de la santé à l'école des hautes études en santé publique. Merci à vous.
Merci à vous.
Et dans un instant sur Europe 1, après le rappel des titres, on va retrouver Sophie Larmoyer pour ouvrir les carnets du monde, pour écouter le monde changer. Nous irons d'abord en Grèce, où plus de 37 000 migrants vivent dans des conditions inhumaines. La population d'abord accueillante sera à Bounaire, est à Bounaire. Et puis on parlera aussi évidemment du coronavirus. Restez avec nous. Bon dimanche avec nous sur Europe 1. Il est 13h. L'essentiel de l'info, Fabienne Lemoelle.
Et les Français donc appelés à voter ce matin pour le premier tour des municipales. Premier tour des municipales maintenu malgré le passage au stade 3 du coronavirus avec une participation en légère baisse, 18,38% à midi, c'est-à-dire 5 points de moins qu'il y a 6 ans. Un scrutin qui se déroule dans un contexte inédit avec l'annonce hier soir de la fermeture de tous les commerces non indispensables à la vie du pays. Ce matin, c'est la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, qui a annoncé une réduction progressive du trafic des trains, des cars et des avions. Elisabeth Borne qui a assuré que tout le monde pourrait rentrer à son domicile et qu'il n'y aurait pas d'arrêt brutal. Il y a quelques minutes, c'est le président Macron qui a voté au Touquet. Le président Macron qui s'est exprimé juste après le vote pour lancer un appel au civisme des Français.
Et on va continuer à aller faire ses courses. On va continuer à sortir pour prendre l'air. Et donc, il était légitime, et d'ailleurs, notre comité scientifique nous l'a redit hier, de pouvoir sortir pour aller voter en prenant les précautions d'usage. Cette crise, nous la relèverons, nous la traverserons, en étant responsables ensemble et chacun. Chacun pour soi et pour les autres. Et donc, en appliquant ces règles. Voilà. Il y a encore quelques heures, beaucoup de nos concitoyens étaient dans les terrasses des cafés, vivaient comme si de rien n'était. Et on leur a dit simplement, ça c'est plus possible parce que c'est idiot, vous êtes en train de commettre des erreurs, parce que vous exposez mutuellement. Mais malgré tout, la vie minimum qui permet d'aller se nourrir et de voter en respectant ces règles, elle doit continuer. Parce que pendant plusieurs semaines, nous allons continuer ça. Voilà.
Emmanuel Macron, à la sortie du bureau de vote du Touquet, où il venait justement de voter et qui a donc pris la parole pour une explication de texte après qu'Édouard Philippe ait officialisé le passage au stade 3 hier soir de l'épidémie de coronavirus avec, je vous le rappelle, donc l'annonce de la fermeture de tous les bars, restaurants, commerces non indispensables à la vie du pays restent ouverts. En revanche, les commerces alimentaires, les pharmacies ou encore les bureaux de vote. Et puis, je vous rappelle donc la principale information, c'est donc ce taux de participation à midi en légère baisse pour le premier tour des municipales. 18,38% de vote, 5 points de moins qu'il y a 6 ans.
C'était Fabienne Lemoelle et puis on refera un point sur l'info de ce dimanche 15 mars dans une heure sur Europe 1.